3 de secours, créer un site web quand on est un vrai débutant, on va aborder la seconde partie qui est CSS. Donc encore une fois, on ne rentre pas pour l'instant dans les détails, on va le faire dans les prochains modules, parce que vous avez vu que ce cours est constitué de pas mal de modules, une seconde partie qui sera vraiment consacrée à la mise en forme, au style, et à CSS 3 plus particulièrement. Là, on va faire comme ce qu'on a fait dans le module 2, c'est-à-dire mettre en forme une page web, et on va passer à travers un certain nombre d'étapes que vous comprendrez au fur et à mesure, certainement déjà maintenant, mais beaucoup mieux plus tard quand on abordera CSS. Donc, je m'appelle Étienne Margrave, je suis évangéliste technique chez Microsoft France, et vous pouvez me suivre sur Twitter en utilisant @meulta. Alors, c'est parti. Donc là, j'ai le répertoire leçon 3, ici, leçon 3, en anglais, dans lequel vous avez encore, évidemment, le répertoire avant, après et pendant. Donc, dans le avant, vous allez retrouver ce dont vous avez besoin pour travailler. Et comme tout à l'heure, je vais l'ouvrir en faisant un clic droit « Open with Code » pour l'ouvrir avec Visual Studio Code. On va attendre que ça s'ouvre. Voilà, voilà. Donc, tout simplement, ce qui a été fait, c'est que le leçon 3 a été renommé. Vous voyez ici qu'on retrouve une mise en forme. La mise en forme est un petit peu meilleure, hein, potentiellement, que celle que vous avez pu faire, vous. Puisque c'est normal, quand on débute, on n'a pas forcément quelque chose qui ressemble à un résultat qu'on a quand on est professionnel par la suite. Et qu'on fait ça tous les jours. Donc là, on a bien toujours notre page, hein, celle qu'on avait tout à l'heure. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est sortir un petit peu de cet univers où ce qu'on a fait dans un premier temps, c'était tout simplement de décrire sémantiquement la page. On a indiqué un head, on a indiqué un body, il y a un header. Donc ça, ce sont des choses qui vont servir au moteur de recherche, qui vont servir au navigateur web pour interpréter la structure de la page. Par contre, si on l'affiche dans cette page, si je viens ici, voilà, et que je vais dans Before et que je l'affiche avec Microsoft Edge ici, donc on voit bien qu'on a un résultat dans lequel on a du texte qui s'affiche, des images, etc. etc. Et puis on a également ici la version anglaise du texte, hein, d'ailleurs, qui n'est pas celle que vous aviez précédemment. Et donc, mais peu importe, hein, puisque le contenu ne compte pas, ce qui compte c'est plutôt la mise en forme. Donc on a ici différentes choses qui potentiellement pourraient être affichées différemment. Vous voyez par exemple qu'on a sur le N, ici, on a une petite barre en bas, on a tout un tas de choses qui font que, bah, par défaut, c'est la police standard, ça doit être du Times New Roman, quelque chose comme ça, et puis que le texte prend toute la largeur de l'écran, que les liens sont dans un style de lien qui est le style par défaut, qui sont affichés les uns en dessous des autres, puisque c'est une liste et pas forcément les uns à côté des autres. Eh bien, ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important de comprendre quand on fait du web, c'est que c'est normal que ça soit comme ça tant qu'on a fait de l'HTML. Maintenant, c'est avec le CSS, ou CSS voulant dire Cascading Style Sheet, des feuilles de style en cascade, c'est grâce à ça qu'on va transformer la partie affichage de chacun des éléments, chacune des balises, chaque signification sémantique. On va indiquer par exemple que les paragraphes doivent être avec un fond d'une certaine couleur, ou avec du texte d'une certaine couleur, ou que les titres H1 doivent avoir telle ou telle taille. Et pour aller modifier l'affichage par défaut, qui est celui qui est utilisé par le navigateur. Heureusement d'ailleurs que le navigateur a un affichage par défaut, puisque si on ne précise pas de style pour une signification sémantique, pour un paragraphe ou pour ce genre de choses, le navigateur il a quand même un comportement qui fait que ça ne sera pas affiché n'importe comment, il y aura quelque chose en standard qui se ressemble généralement dans chacun des navigateurs. Alors pour pouvoir faire ça, on va ajouter ici quelque chose qui s'appelle link dans le head. Donc dans le head, on va indiquer au navigateur que cette page, elle a besoin d'une feuille de style qui, donc rel étant la relation vers ce lien, hein, c'est style sheet, donc la feuille de style qui est associée. Et puis on va indiquer le chemin vers cette feuille de style. Et on va afficher le chemin vers cette feuille de style. Donc ça sera href égal et entre parenthèses son chemin. Alors pour l'instant il n'existe pas, on va l'appeler style au pluriel .css. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et d'ailleurs vous pouvez en avoir plus qu'une seule et en créer des supplémentaires si besoin. Donc ce fichier là n'existe pas encore, donc on va le créer. On va créer un nouveau fichier qui s'appellera, donc je vais le sauvegarder, hein, qui va s'appeler style.css. Voilà. Donc pour l'instant, ça n'a absolument aucun résultat. Ça ne fera rien, puisque le fichier n'existe pas encore, enfin ne contient encore rien. Mais ce qu'on va commencer par faire, c'est indiquer que toute la page doit avoir une certaine police d'affichage. Et pour ça, on va utiliser un sélecteur. On reviendra dessus quand on parlera plus précisément de CSS. Mais un sélecteur, c'est une espèce de requête qui va se faire dans une page et qui va définir que pour tous les éléments qui correspondent à cette requête-là, on va appliquer un certain style. Et tous les éléments qui sont en dessous vont en hériter, bien évidemment. Donc là, on va définir que on veut avoir une famille, une font family, donc une famille de police, de caractères. Pourquoi c'est une famille? Puisqu'en fait, on va préciser un certain nombre de choses. Dans Visual Studio Code, vous avez des exemples qui sont déjà prédéfinis, mais on va le créer nous-mêmes. Donc on veut un Arial, si c'est possible. Et c'est une famille parce que si jamais il ne trouve pas Arial, parce que ça n'existe pas, alors on va lui demander d'utiliser un Helvetica. Helvetica. Et puis si jamais ça n'existe pas, on va lui demander d'utiliser un sans-serif. Donc ça c'est quelque chose d'assez classique, hein. Après vous pouvez très bien utiliser d'autres types de polices. Il y a des choses très complexes et très avancées qu'on peut faire avec les polices. Restons très simples pour l'instant. Et donc chaque sélecteur contient un ensemble de propriétés, ici séparées par deux points pour assigner une valeur, et se termine par un point virgule. On va faire ça et puis on va sauvegarder et on va aller voir le résultat. Donc si je viens ici que je rafraîchis, vous allez voir certainement que la police va changer. Donc vous voyez ici que en dessous des P, des N, etc., on n'a plus les différents petits caractères qui s'affichent. On est bien sur une police de type Arial qui s'est affichée. On va aller un petit peu plus loin, on va mettre une couleur de fond. Soyons fous. Background color. D'ailleurs, vous voyez que Visual Studio Code vous aide, hein, il suffit de cliquer dessus et automatiquement il vous le complète. Et puis on va lui donner une couleur en hexadécimal, on reviendra sur ça plus tard, qui est constituée de 6 valeurs. Donc 3, 3, 3, qui d'ailleurs, vous voyez le résultat dans Visual Studio Code directement, hein, qui vous dit que ça va être une espèce de gris un peu léger. Et quand je retourne dans mon navigateur et que je rafraîchis ma page, vous allez voir que là, bon, ça commence à devenir un petit peu compliqué à lire. On peut dire que c'est pas top, mais bon, on va essayer de faire quelque chose pour améliorer un petit peu tout ça. Et réussir à visualiser les choses de manière peut-être un petit peu plus simple. Alors on va commencer par le header, et d'ailleurs même généralement les sites, c'est assez rare maintenant qu'ils soient comme ça complètement alignés à gauche, généralement ils sont centrés, donc on va partir sur ce type de site web, on va essayer de centrer le contenu ici en ayant quelque chose qui soit un petit peu sympa. Donc pour ça, on va rajouter dans notre feuille de style un nouveau sélecteur qui est le header. Puisque je vous rappelle, hein, si on retourne dans le code HTML qui est là, qu'on a notre body, et puis le premier élément c'est un header qui contient channel 9, HTML5, et puis la navigation. Donc on va appliquer un style à tout ce qui se trouve dans header. Donc on utilise le sélecteur header qui est très simple. Vous verrez plus tard qu'on peut en faire des sélecteurs beaucoup plus poussés. Puis on va commencer par lui donner une largeur de 80%. Donc width, qui veut dire largeur en anglais évidemment, hein, de 80%, et on va donner d'autres propriétés supplémentaires. Notamment, on va mettre une couleur de fond qui va être un petit peu différente puisque ça va être noir. Voilà, donc là, cette fois-ci, on n'utilise pas une couleur en hexadécimal, mais on utilise bien un mot-clé qui va nous aider un petit peu. Et puis, on va définir une couleur pour le texte qui sera color de point white. Donc, on va mettre le texte en blanc, comme ça, on pourra le voir un petit peu mieux. Je sauvegarde, je retourne dans ma page, et puis si je rafraîchis, donc on voit que on a bien le channel 9, HTML5, etc. qui s'affiche en blanc, et puis on a ici, ça ne prend que 80% de la largeur de la page, hein, on a un petit bout qui est resté. Par contre, c'est pas centré. Alors pour centrer, c'est pas aussi simple que align égale center ou ce genre de choses. On a une petite astuce en CSS où on utilise les marges. Donc on va définir des marges à notre élément. Et on va faire une première qui sera la marge de droite qu'on va définir en automatique. Et puis la marge de gauche qu'on définira. Alors je me suis trompé. Margin left. La marge de gauche qu'on met également en automatique. Et simplement le fait de faire ça, quand je rafraîchis, va me centrer mon texte, enfin me centrer mon élément directement, mon header, au centre de ma page. On va également rajouter un padding. Alors le margin, c'est la marge qui est autour. C'est donc ce que vous voyez, hein, c'est pour ça que ici ça l'a poussé vers le gauche et non pas à l'intérieur. Et le padding, c'est la marge à l'intérieur, donc pour pas que ce soit collé ici entre le texte et puis le bord de mon en-tête. Et donc pour ça, on utilise padding. Alors cette fois-ci, je ne précise pas left, right ou n'importe quoi. Je vais simplement dire que je veux tout autour, ou à l'intérieur du texte, à l'intérieur, tout à l'intérieur, tout le tour, 10 pixels de marge. Je sauvegarde, je retourne là-dedans, je rafraîchis et vous voyez que j'ai bien, dès que possible, de la marge qui va se positionner directement à cet endroit-là. Ça commence à être pas mal. Comme on peut le voir ici, on a les différents paragraphes qui, eux, ne sont pas centrés. Alors on va faire quelque chose qui est un petit peu identique. Alors on va ici déjà faire un petit point parce que j'ai rajouté depuis la dernière fois une section. Donc la section contient les deux articles. Elle démarre ici et elle se termine ici. Donc c'est pour regrouper un petit peu tous ces articles ensemble. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer du style sur cette section pour centrer un petit peu tout ce texte qui est contenu là-dedans. Alors donc on va indiquer la section à cet endroit-là. Voilà, donc c'est notre sélecteur, on sélectionne la section, et sur la section on va faire la même chose, hein. On va mettre une largeur à 80%, on va mettre cette fois-ci, alors je reviens à la ligne, un background color, décidément, background color à blanc, et puis on va définir, donc c'est pareil, je vais copier-coller, hein, une marge qui va être automatique. Voilà, comme ça sera bien centré. Si on va voir d'ailleurs progressivement ce que ça donne, vous voyez que ça commence à se centrer un peu, c'est mis en blanc, c'est un petit peu plus sympa. Et on va indiquer qu'on veut un padding à l'intérieur qui sera de 5 pixels. Voilà, donc généralement on joue un petit peu avec les éléments et ça donne un résultat plus ou moins différent. Et on voit qu'on commence à avoir une entête qui se dessine bien ici, et puis du texte à cet endroit-là. Alors moi, il y a quelque chose qui m'embête un peu ici, c'est que j'aimerais bien avoir mon texte, mon titre à gauche, et mon menu à droite, et puis mon menu qui soit aligné de cette manière-là. Alors pour faire ça, on va faire un certain nombre de choses. Déjà, la première, c'est que on va définir que pour le H group, alors revenons là-dedans, hein, toujours essayer de comprendre comment s'organiser, j'ai mon H group, lui il doit être à gauche et prendre 70% de la taille, et ma navigation, elle doit être à droite et prendre 30% de la taille. Donc pour faire ça, on va définir juste au-dessus de la section ici un H group, un sélecteur pour le H group, qui va contenir tout simplement une largeur de width de 70%. Et on va lui demander de se mettre en type d'affichage différent qui est flottant et flottant à gauche. Donc on va faire ça tout simplement comme ça. Et puis pour la navigation, on va faire quelque chose d'à peu près similaire, nav. On va indiquer que sa largeur, elle est de 30% et qu'elle doit être flottante à droite. C'est une manière de s'afficher différente du flux normal HTML dans lequel il se positionne. Si je rafraîchis maintenant ici ma page, alors on voit que c'est pas top top. Et il y a une raison à ça, c'est que comme on l'indiquait en flottant, l'élément dans lequel il se trouve n'est pas adapté par rapport à la taille de ces éléments-là. Donc, comme ils sont en flottant, ils n'impactent plus le parent qui est le header, et donc du coup, le header ne prend plus la bonne taille. Donc pour ça, on va aller positionner ici dans le header un overflow hidden, et on rafraîchit, et donc je ne rentre pas dans les détails pour l'instant, mais quand on fait ça, tout simplement, ça va modifier le comportement par défaut et ça va faire en sorte qu'il s'adapte automatiquement, correctement à la taille des éléments qu'il contient. Donc, on commence à avoir quelque chose qui est sympa avec à gauche des éléments et à droite des choses. J'en profite pour faire une petite pause à ce moment-là, puisque vous avez remarqué que on est quand même parti d'une page qui ressemblait plutôt à du texte dans un Word classique, puis on commence à progressivement changer les éléments, les positionner à gauche, à droite, mettre des couleurs de fond et ce genre de choses sans absolument toucher au code HTML. Tout ce qu'on a fait, c'est dans le code HTML référencer une feuille de style qui vient appliquer un style particulier à ce code et qui vient se positionner correctement et donc qui nous permet de jouer, de tuner un petit peu cet affichage comme on a envie. Alors, on va continuer un petit peu et puis ce qu'on va faire, c'est que on va donner des tailles différentes aux différents éléments qui se retrouvent là-dedans, donc aux différents H1 et ce genre de choses. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le code CSS et puis on va indiquer ici, on aura H1 à cet endroit-là, puis on aura également H2 à cet endroit-là, nous on va jusqu'à H3, vous vous rappelez, hein, on a défini jusqu'à H3 dans notre code, et on va définir plusieurs choses. La première, c'est la taille de la police, font size, Et donc, on pourrait la définir en pixels, les gens font ça, mais le mieux, c'est d'utiliser EM, qui est une notation relative. Donc, en fait, on veut avoir le titre H1 qui fasse deux fois la taille standard de la police qui lui est appliquée. Donc, on va faire ça tout simplement. On va mettre une marge également qui va être à 0 pour enlever la marge à gauche. Et puis, on va mettre un padding qui sera à 0 également pour enlever la marge intérieure de cette manière-là. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est avoir un padding top, donc que dès qu'on a un titre, automatiquement au-dessus, il y a 10 pixels de marge qui vont se positionner pour que le texte qui est au-dessus ne soit pas collé au titre et qu'automatiquement, il y ait un décalage, sans avoir besoin, par exemple, vous vous rappelez, de faire un BR qui est, lui, une signification plutôt sémantique. Là, c'est réellement, je dis que je veux une marge au-dessus. Et puis, on va faire à peu près la même chose pour le reste. Hein. On va mettre un font size à... Alors pour le H2 qui est moins important, on va quelque chose de plus petit, 1,6 EM. Et pour le H3, on va mettre un font size de cette fois-ci 1,3 EM. Donc c'est 1,3 fois la taille classique. On a quelque chose de dégressif. Si je viens à cet endroit-là que je rafraîchis, on voit bien une différence. Hein. J'ai back, etc., qui est plus gros que ça, qui est plus petit que ça, etc. Donc on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Mais on aimerait bien également appliquer le style à ces éléments-là. Qui sont un peu différents parce que eux ils sont dans un hash group. Alors pour définir quelque chose de particulier sur un hash group, notamment par exemple ici d'avoir ça en lettres capitalisées, puisque là vous voyez que c'est un petit peu en mini aussi, enfin qu'il y a des caractères qui sont petits, pour faire ce genre de modifications, donc on va être plus précis dans le sélecteur. Donc pour l'instant on a utilisé à chaque fois H1, H2, hash group, hash nav, enfin nav, etc. Ce qui fait que c'est un sélecteur très large qui prend tous les éléments qui sont H1. Si on veut préciser qu'on veut que les éléments H1 qui sont dans un hash group, ben on va le faire de cette manière, hash group espace H1. Et donc là, on va indiquer que je vais appliquer un style à tous les éléments H1 qui sont dans un hash group. Ce qui fait que ça éliminera d'office tous les autres. Et donc pour cet élément-là, on va donner quelque chose d'assez différent, puisqu'on va avoir un padding top qui lui sera 0 pour enlever cette marge qui est ici, là, dont qu'on ne veut pas. Et on va indiquer également qu'on veut une hauteur, line 8, une hauteur de ligne, qui soit de 1, de une fois la taille. Et une fois la taille de la police. Puis on va faire la même chose, hash group, H2. Et cette fois-ci, donc, pour ce texte-là, j'avais dit que c'était pour l'autre, mais peu importe, faisons-le pour lui. Donc on va capitaliser ce texte-là, donc texte. Transforme, on peut appliquer des transformations au texte pour le modifier légèrement. Donc, il y en a plusieurs, hein, capitalize, lowercase, uppercase. Et on va utiliser capitalize pour donner une notion un petit peu de titre différente de celle qu'on a pour l'instant. Et puis on va donner une taille un tout petit peu plus grande, font size 1,2 EM. Et on va lui donner une hauteur de ligne de 1 EM. Voilà, alors je sauvegarde, je reviens ici, je rafraîchis. Donc on voit que ça ne s'est pas capitalisé. Alors pourquoi ça ne s'est pas capitalisé? Donc, oui, c'est parce qu'en fait, c'est pas capitalisé, c'est uppercase ici. Voilà. Donc du coup, si je reviens ici, que je rafraîchis, vous voyez bien que j'ai mes éléments qui sont mis en majuscule à cet endroit-là. Donc ça fonctionne plutôt comme on veut. Alors il y a un truc qui m'embête encore, c'est les petites puces là. Donc ça, on peut l'enlever aussi. Donc c'est assez simple à réaliser. Donc dans le nav ici, on va faire un nav UL pour définir tout ce qui sont des UL, des listes non ordonnées dans une nav. On va indiquer que le style de liste, donc le list style type, le type de style. Je vais y arriver. Deux points est en fait, donc il y a tout un tas de choses qui existent, hein, anon. Ce qui fait qu'on n'aura rien qui s'affichera devant et vous allez voir que du coup les petites puces, quand je rafraîchis, disparaissent et on a une liste tout à fait classique et tout à fait normale. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner le nav li cette fois-ci en flottant à gauche. Avec une marge à droite de 5 pixels. Je sauvegarde, on va voir le résultat. Et c'est ce qui me permet d'avoir, plutôt que de l'avoir de manière de haut en bas, on l'a ici de cette manière-là, et elle va se positionner comme ça très facilement dans mon texte. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de changer encore ici? On a deux, trois choses. La première, c'est que si on regarde un petit peu, ça commence à ressembler à quelque chose d'assez sympa, hein. Les images, on pourrait y appliquer deux, trois petites choses supplémentaires. Notamment, on pourrait mettre potentiellement, on pourrait leur donner un affichage avec des ombres, pourquoi pas. Si je dézoome un peu, vous voyez, on pourrait mettre un petit peu d'ombre ici et puis les afficher à droite avec le texte qui coule dessus. Donc on va faire ça. Et pour ça, on va sélectionner IMG. On va les mettre en flottant à droite. Ça vous rappelez, hein, très simple. On va définir une marge. Alors, il y a margin top, left, il y a tiré quelque chose, top, left, etc. Et bottom. Mais en fait, il faut savoir qu'on peut les définir les uns après les autres. Alors ça part du haut. Puis ensuite ça va à droite, en bas, et puis ça tourne comme ça dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc 0 pixel pour le haut, espace 0 pixel pour la droite, espace 10 pixels pour le bas, pour qu'elles ne soient pas collées en bas, et puis 10 pixels pour la gauche, pour que ce ne soit pas collé à gauche. Voilà, donc si maintenant je fais ça et que je viens ici, vous voyez que les images maintenant elles sont flottant à droite, donc le texte coule à gauche ici, et vous voyez qu'il y a au moins une marge de 10 pixels à chaque fois qui se positionne, puisqu'on l'a demandé tout simplement. Donc les images sont maintenant partie du texte, c'est un petit peu plus sympa à lire. Et alors il manque l'ombre, hein, parce que vous voyez que là les images sont collées telles quelles. Pour mettre une ombre, c'est un petit peu différent, donc ça ressemble un peu, mais on met un box-shadow, et là on va préciser des éléments. Alors on a 0px, alors plutôt d'ailleurs on va mettre 3px, 3px, 5px, et 1px, et puis la couleur de l'ombre on va mettre un léger gris. Voilà, donc ça c'est des valeurs qui définissent la manière dont se diffuse l'ombre et tout ce genre de choses. On va pas rentrer dans les détails maintenant. Ce qu'il faut savoir simplement, j'oublie pas le point virgule, c'est que ça va donner un résultat qui ressemble un petit peu à ça. Donc, vous voyez ici, il y a une petite ombre toute légère et toute discrète qui s'est mise, qui fait que ça sort un petit peu de l'écran, et c'est un peu plus sympa à visualiser que quand c'est collé directement sur le texte. On commence à arriver pas mal proche du résultat. Et donc voilà, je pense qu'on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on voulait. On va terminer peut-être par le footer ici, puisque vous voyez qu'il n'est encore pas affiché correctement. Et donc, je vais aller rajouter ici une sélection pour le footer, qui va se positionner en width 80% toujours, puisqu'on a toujours la même largeur de page. Un background color qui va être noir, donc le texte du coup forcément en blanc pour qu'on puisse le lire correctement. Et puis margin right auto, margin left auto également, comme ça c'est centré. Là si je regarde ce que ça donne, on commence à avoir un résultat qui est plutôt bien. Alors il n'a pas pris la largeur puisque je me suis trompé, donc c'est pour ça qu'il faut bien tester de temps en temps, hein, pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. Si je rafraîchis maintenant, c'est bien la bonne largeur. Par contre vous voyez que j'ai toujours ce petit problème qui est là, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui définir une hauteur en dur, ce sera beaucoup plus simple. Donc 8 égale 50px, et puis on va lui mettre une marge intérieure pour pas que ça soit collé au bord, hein, de 10 pixels. Et voilà. Donc vous voyez ici, si on regarde un petit peu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une largeur à 80%, j'ai mis une couleur de fond en noir, une couleur de texte blanche, la petite astuce pour centrer, la hauteur définie en dur, un padding pour pas que ce soit collé au bord, et on est plutôt pas mal. Alors, dernière petite chose, vous voyez ici que les... Alors on voit pas très très bien là, mais en fait le texte, ici le blanc là, est un petit peu décalé par rapport à ça. Alors ce qu'on va faire pour éviter ce problème, c'est assez simple, on va faire une toute petite astuce. On va mettre, comme c'est des paragraphes à l'intérieur, on va mettre une marge à ces paragraphes directement. Et donc je vais aller dans mon code CSS, je vais ajouter P, donc le sélecteur P, je descends un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, P. Et donc pour ce sélecteur, je n'avais pas défini déjà non P, j'avais pas encore défini. Donc ce sélecteur là, on va lui indiquer tout simplement qu'on veut une margine extérieure de 10px. Alors ce qui n'a pas le résultat que je voulais, mais c'est pas grave, c'est quand même joli. Vous voyez, des fois on a des surprises. C'est quand même sympa ici. Et donc je vais aller tout simplement. Je pense que ça va se passer dans la section qui va se trouver ici. Voilà. Donc j'ai un padding de 5% déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais définir une border. De 5 pixels. Je pense que c'est à peu près ce dont on a besoin. Et cette border, je vais mettre un border color à black, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Un border style, donc style de la bordure. En l'écrivant correctement, le style de la bordure qui va être solide. On peut faire plein de choses avec des pointillés, etc. Et on est plutôt pas mal. Et donc maintenant, si je reviens dans mon code ici, je vais avoir, voilà, j'ai une petite bordure qui se positionne tout autour. Donc ça fait comme si le pied de page et le haut de la page, tout simplement, encadraient le texte qui est à l'intérieur, ce qui donne un résultat. Je suis d'accord qu'on a vu des pages un petit peu plus jolies, certainement sur Internet, mais vous comprenez un petit peu le principe, on commence à avoir des choses qui s'affichent correctement, de manière assez sympathique. Voilà, donc je vous invite à essayer de jouer un petit peu avec tout ça, on peut passer des heures à tuner, à se jouer avec les pixels, avec les bordures, ce genre de choses-là, pour avoir un résultat qui nous plaît beaucoup, ou pas d'ailleurs, on met parfois du temps à avoir un résultat qui nous plaît. Et donc on va bien évidemment, maintenant qu'on a, fait un premier passage sur HTML pour la structure et puis sur CSS pour la mise en forme, on va passer à une revue en détail des différents éléments et différentes choses qu'il y a en HTML, puis ensuite on fera quelques modules sur CSS. À bientôt.